Alors, nous allons prier que le Seigneur Jésus soit avec nous pour diriger les choses. Oui, Seigneur Père éternel, tu nous as donné Jésus comme berger, nous sommes des brebis. Et Seigneur, souvent nous nous égarons, nous sommes bien faibles. Et c'est notre berger qui nous conduit aux eaux paisibles, au vert pâturage. C'est Jésus, notre berger, qui connaît nos âmes et qui nous parle. Aujourd'hui, Seigneur, Père éternel, nous acceptons la parole de Jésus, notre berger, dans Luc chapitre 8. Amen. Ensuite, Jésus allait de ville en ville, de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Quand l'évangile de Luc est écrit, il est écrit dans les années 60, et il est écrit par un médecin grec converti qui a connu Pierre, Paul, Jean, qu'on appelle Marc, celui qui a écrit l'évangile de Marc. Et donc, quand il écrit cela, la bonne nouvelle, ça veut dire que c'est la mort et la résurrection de Jésus pour nos péchés, pour le salut et le don du Saint-Esprit. Voilà, c'est clair, nous nous mettons dans la peau de ceux qui lisent dans les années 60 quand Luc vient d'écrire le récit de la vie de Jésus. Donc Jésus allait de ville en village et de ville en ville pour annoncer ce qu'il allait faire sur la croix pour les péchés du monde et pour les péchés des Juifs et pour les sauver, évidemment. Les douze étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie dite de Magdala, de laquelle étaient sortis sept démons. Jeanne, femme de Chusa, intendant d'Hérode. Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leur bien. Donc, vous voyez que c'est intéressant de voir qu'il y avait des femmes de qualité avec les apôtres pour servir le Seigneur et la parole du Seigneur. Alors, une grande foule s'est assemblée, des gens étaient venus de diverses villes auprès de lui. Il dit cette parabole, un semeur sortit pour semer sa semence. Il s'agit de la parabole que vous connaissez, que tous les chrétiens connaissent, celle de la semence qui tombe sur une partie, évidemment, le long du chemin, au verset 5. Elle est foulée par les pieds, et les oiseaux du ciel la mangèrent. Au verset 6, une autre partie de la semence tomba sur le roc, elle leva, elle sécha, elle n'avait pas d'humidité, donc elle périt. Au verset 7, une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent et donc ont grandi et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Donc toute cette parabole, nous la connaissons dans Matthieu chapitre 13. Mais ce qui est intéressant, c'est l'appréciation de la bonne terre qui est donnée ici dans l'évangile de Luc et qu'on ne trouve pas dans Matthieu. C'est au verset 15. Celui qui est tombé dans la bonne terre, donc le grain, la parole de Dieu, celui qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Mais posez-vous la question, comme moi, est-ce que réellement, avant d'avoir reçu le Saint-Esprit, notre cœur est bon ? Est-ce que nous sommes persévérants dans la parole? Je pense que réellement, quand Luc dit cela, il apprécie déjà la vie chrétienne de plusieurs témoins qu'il a devant lui, et il a vu l'œuvre de la parole chez ces personnes qui avaient, au moment où il les a rencontrés, un cœur bon, honnête et persévérant. Ce qui veut dire que l'effet de la parole et de changer le cœur. Ce qui veut dire que Luc a constaté que la parole était changée. La parole, non, n'était pas changée, mais la situation dans laquelle la parole tombe est meilleure, est changée. C'est-à-dire, l'état moral et spirituel de la personne est complètement transformé dès que la parole intervient dans sa vie. Et dès qu'elle est aimée et entendue tous les jours. Donc, il est clair que, quand je vois ce texte, je pense que Luc a énormément apprécié l'œuvre du message de Jésus, de la parole de Jésus, de l'enseignement de Jésus, dans la vie de Paul, de Pierre, de Jean-Marc, celui qui a écrit l'évangile de Marc, et d'autres qui sont issus de la Pentecôte. D'autres, bien sûr, il en a connu d'autres. Donc, il avait à la fois, je pense qu'il faut bien comprendre le texte, il avait l'expérience de la parole, notre cher Luc, médecin, il a l'expérience de la parole, il en a découvert la valeur, il a découvert qu'il fallait avoir un cœur accueillant, bon et honnête et persévérant, mais ça c'est l'œuvre de l'Esprit-Saint qui le fait, ça c'est clair. Dans tout l'évangile de Luc, il y a beaucoup de passages sur le Saint-Esprit, donc je ne peux pas mettre ça de côté, je vois globalement tout l'évangile de Luc. L'œuvre de l'Esprit-Saint a fait cela dès le moment où les personnes ont entendu, et lui-même, entendu la parole. L'œuvre de l'Esprit-Saint saisit le cœur, la pensée, et mobilise dans un autre sens qu'avant. Ce n'est plus les pensées trompeuses, les convoitises, etc., la rébellion, la colère, etc., les mensonges, l'impureté. Donc, le cœur, si Luc a vu tout cela se passer dans son cœur, et il l'a vu par le témoignage de Pierre, Paul et d'autres, beaucoup d'autres citoyens du ciel, beaucoup d'enfants de Dieu venus de la Pentecôte, il a vu une transformation complète et véritable dans ces personnes. Et c'est cela qui l'a amené à la parole, à découvrir dans sa puissance régénératrice, comme dit Pierre dans son épître. Et donc, il est clair que c'est un texte qui est une louange à l'œuvre apostolique des premières dizaines, des premières années. Pour moi, c'est une glorification. Ce n'est pas simplement de la théorie. C'est un constat et c'est une œuvre. C'est le constat et c'est une parole qui relève la gloire de l'effet de l'Évangile chez les disciples, les premiers disciples chrétiens, et puis lui ensuite. Alors, il prend bien sûr une autre image que la graine, c'est-à-dire que Jésus avait pris cette image, on le trouve dans Matthieu, donc évidemment, ce n'est pas lui qui l'a inventée, mais il la reprend ici, au verset 16, « Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase ou ne la met sous un lit, mais il la met sur un chandelier, afin que ceux qui entrent voient la lumière. » Je pense que le chandelier, il faut bien se dire ceci, c'est que pour tous les juifs, bien sûr Luc n'est pas forcément juif lui, mais ce qu'il y a, à moins qu'il ne soit grec et juif en même temps, je ne sais pas, mais ou la mère ou le père juif, mais en tout cas, pour au temps de Jésus, le chandelier, c'est celui qui est dans le temple, à cette branche, et qui représente le Dieu créateur, qui a tout fait, qui est tout puissant, qui a un discernement, une omnipotence, une omniscience complète, il sait tout, il voit tout, il est présent, il est le Dieu de la lumière et de la création. Et ce menorah, ce chandelier, est là dans le temple, il brûle jour et nuit. Bien sûr, la lumière après c'est Christ. Dans le Nouveau Testament, avec la venue de Jésus, c'est Jésus la lumière du monde. C'est lui la manifestation de la lumière divine. Et il faut savoir que si je me mets à la place d'un citoyen grec qui devient chrétien, qui a rencontré des juifs, qui ont eu des chocs, qui ont été changés, transformés complètement, et nous voyons ici que Luc prend cela à cœur. Il dit que la lumière ne peut pas être cachée. La lumière doit être visible par tout le monde. Donc elle n'est pas dans un temple de pierre, comme à l'époque de l'Ancien Testament, jusqu'au moment où Jésus est venu, jusqu'au moment où Titus a détruit le temple. La lumière n'est pas dans un temple, et la lumière est où ? Elle l'est dans la vie des chrétiens. Où est cette lumière? Et qui est cette lumière? Cette lumière, c'est le Christ. Si vous prenez 2 Corinthiens chapitre 4, verset 6, 2 Corinthiens chapitre 4, verset 6, vous allez avoir une explication immédiate. Deuxième Corinthiens, chapitre 4, verset 5. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, rendez compte de ce qui est dit par Paul, donc Pierre, Jean, tous les autres. Et quand Luc, ce médecin grec, a rencontré ces apôtres-là, il est clair qu'il a compris le message. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons, Kerutzo, que nous proclamons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, donc ça c'est Genèse 1-3, dans les tout premiers textes de la Bible, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Donc la lumière vient dans mon cœur quand l'évangile m'est proposé, m'est enseigné, proclamé, et que je me rends compte que le Jésus de Nazareth, mort et ressuscité, est dans la gloire de Dieu, est la manifestation de la gloire de Dieu. Et c'est extrêmement important, cette lumière-là n'est pas anormale pour un chrétien dès qu'il est converti. Prenons Hébreux chapitre 1, verset 1 à 3. Cette lumière n'est pas anormale dès le moment où, avec le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, nous avons accepté la parole. La parole de Dieu, pas la parole d'un pasteur. Hébreux chapitre 1. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, eschatone, c'est le temps depuis la mort et la résurrection jusqu'à son retour. Hein. Ce n'est pas les derniers temps, comme dit ce témoin de Jéhovah. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses et par lequel il a aussi créé le monde, qui est le reflet de sa gloire, le reflet, épiphanous, c'est-à-dire la manifestation glorieuse, et la lumière. La manifestation glorieuse de Dieu, l'empreinte de sa personne, c'est-à-dire la marque, il est conforme à Dieu. Et soutenant toute chose par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Voilà. Philippiens, chapitre 1, verset 1 à 3. J'en reviens à Luc. Donc, au chapitre 8, verset 16. Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre dans un vase ou ne la met sous un lit. Donc, personne, si les chrétiens qui acceptent Jésus, ne peut dissimuler la présence de Jésus en lui. Personne ne peut taire la vie divine reçue. Personne ne peut cacher et mettre au secret cette lumière glorieuse. Cette personne si importante qu'est le Fils de Dieu, qui est venu dans la vie du chrétien. C'est quelque chose d'extrêmement important, ce verset. Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase ou ne la met sous un lit, mais il la met sur un chandelier, afin que ceux qui entrent voient la lumière. Nous sommes des Christophoros, c'est-à-dire des porteurs du Christ. Et Phoros, c'est le phare au bord de la mer, hein? Les phares au bord de la mer sur les rochers, etc. Phoros, c'est cette lumière de Christ qui est mise en évidence par un chrétien qui est en lui et déposé Christ. Si vous retournez, je ne le ferai pas maintenant, mais si vous retournez dans le texte de 2 Corinthiens chapitre 4, versets 6 à 8, vous verrez que nous sommes considérés comme un vase de terre, pas de cristal, et que la lumière est déposée en nous. Et malgré les parois opaques, la lumière brille dans le monde. C'est extrêmement astucieux comme image, Ça veut dire que malgré nos imperfections, malgré encore tout un long chemin qu'on doit faire pour être semblable à Christ, pour être transparent, pour être lumineux, eh bien, nous sommes déjà lumineux malgré que nous ne sommes pas transparents. Nous sommes déjà porteurs de lumière alors que nous ne sommes pas nous-mêmes la lumière. Nous sommes déjà lumière pour les autres. Et cela est un encouragement. Et c'est aussi un avertissement, on ne peut pas cacher Christ qui est en nous. Il doit être compris et saisi et vu par les autres. Sinon, c'est que nous n'avons pas compris notre mission, notre vocation de Christophoros, c'est-à-dire de celui qui porte la lumière de Christ. Au verset 17, il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert. C'est Christ qui est caché en nous. Il doit être découvert, il doit être manifesté. Si vous êtes timide, si vous n'avez pas d'expérience pour témoigner, priez, suppliez le Seigneur que un jour ça se passe. Et demandez à des frères comment on peut témoigner, comment on peut faire, etc. Demandez à des frères de prier avec vous. Et à un moment donné, ça va venir. Il y en a des autres qui ont un caractère de fonceur et qui sont... Vite à l'action, mais il faut aussi qu'ils soient prudents. Ça peut être leur lumière personnelle qui tente de passer au-dessus de celle de Christ. Donc, de toute manière, il y a quelque chose qui en nous doit être décaché et révélé, c'est Christ. Très important cela. Prenez donc, verset 18, donc garde à la manière dont vous écoutez, car on vous donnera celui qui a. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il croit avoir.
Allô.
Donc, comprenez bien que ici,
Monsieur, mon mari est en train de faire
pour le moment, une
conférence vidéo.
Ce qui se passe au verset 18, la première partie du verset 18, prenez garde à la manière dont vous écoutez. Il n'y a pas de lumière en nous sans l'écoute de la parole de Dieu.
Merci beaucoup.
Il n'y a pas de véritable lumière de Christ en nous sans une véritable écoute et observance et obéissance à la parole de Dieu. Voilà ce qu'il faut comprendre. Donc, on peut entendre de manière superficielle la parole de Dieu, la connaître en surface, et puis, zoom, on veut déjà être un témoin, on veut déjà être quelqu'un qui porte la lumière de Christ aux autres, et on ne porte rien du tout. On est dans l'émotion, on est dans la charge émotionnelle, on est dans l'emballement, l'euphorie ou je sais pas quoi, ou dans l'idéologie, une nouvelle idéologie, une nouvelle pulsion, parce qu'on en a plein. Hein. Et alors, si on écoute attentivement la parole de Dieu, si on l'écoute vraiment avec un esprit d'humilité et d'obéissance, et dans le Saint-Esprit, à ce moment-là, regardez bien ce qui est mis dans ce verset 18, on donnera à celui qui a. C'est-à-dire que Dieu va donner réellement la lumière de Christ et il va donner la capacité de témoignage, la capacité de Christophoros de porter la lumière et d'être un témoin. On donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il croit avoir. Ce qu'il croit avoir. Donc un chrétien superficiel qui s'embrouille dans ses passions humaines et qui croit que ça vient du Saint-Esprit, et qui n'écoute pas réellement, qui n'obéit pas profondément, humblement la parole de Dieu, il croit avoir quelque chose, il n'a pas la lumière, et en plus, Dieu va ôter. L'état de cette personne sera encore pire qu'avant. C'est ça qu'a voulu exprimer Pierre dans une part de son épître, prenant la deuxième épître de Pierre, et... quand je parle comme ceci, je n'engage que moi-même, je prends mes responsabilités, je ne veux pas dire que j'ai appris tout cela à telle ou telle place, par tel pasteur ou tel institut biblique, je fais mon possible pour vous transmettre, suite aux réflexions, suite à l'expérience, ce que le Seigneur m'a montré, mais il est clair que si d'autres ont d'autres explications, du moment qu'elles sont conformes à l'Esprit Saint, et à Jésus, je ne suis pas dérangé. Donc, dans la deuxième épître de Pierre, nous avons... Il se passe quelque chose. c'est que au deuxième épître de Pierre, chapitre 1, verset 3, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Sa divine puissance, c'est Christ, hein. La vie et la piété, donc à la fois, au moins la connaissance de celui qui nous a appelés, donc Jésus, par sa propre gloire et par sa vertu. Nous sommes appelés uniquement par un Seigneur, trois fois saint, infiniment grand, plein d'amour, et qui a une puissance de révélation. C'est pour ça que nous l'avons connu. Et lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine. L'objectif de Jésus, c'est que nous soyons participants à la nature divine. Pourquoi ? Parce qu'il faut retrouver cette situation d'avant le péché d'Adam et Ève, où l'homme participait à la vie divine. Quel grabuge sur la terre depuis des milliers d'années, n'est-ce pas ? Où l'homme ne participe plus à la vie divine, à cette vie glorieuse, sainte, généreuse, belle, altruiste, altruiste autant que l'amour entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Alors, cette vie divine en nous, nous aide, dans le verset 4, à fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Alors, il y a une invitation évidemment à nous engager et à nous donner. Ça correspond dans Luc à celui qui a, on donnera encore. Ok ? À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété l'amour fraternel, et à l'amour fraternel la charité. Car c'est, si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, c'est ça que Jésus a dit, à celui qui a, on donnera encore, c'est ça l'abondance. Elles ne vous laisseront point oisives ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Connaître le Seigneur Jésus, mais sans être oisif, paresseux et stérile. On porte du fruit. Donc c'est tout le thème de la lumière. Christophoros, celui qui porte Christ aux autres. Mais pour celui qui n'a pas, à qui on ôtera encore, on a vu dans Luc, celui qui est oisif et stérile, et qui peut-être a Jésus sur les lèvres, hein, et peut-être se prétend chrétien, eh bien, regardons verset 9. « Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. » Donc, il est absolument, absolument inconscient de sa situation de pécheur. Il est absolument aveugle sur la grâce que Dieu veut lui faire. Donc, ce verset-là de la deuxième épître de Pierre, au chapitre 1, verset 9, correspond, si vous voulez, d'une autre manière, dans un langage qui est différent, mais c'est le même message, dans Luc chapitre 8, au verset 8, « Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, donc celui qui reçoit encore, c'est parce qu'il n'est pas oisif, il n'est pas stérile, etc. Et il est persévérant, il fait des efforts dans la vie chrétienne. » Donc c'est ça la bonne terre aussi, hein, qui accueille avec un cœur honnête et persévérant, du verset de Luc 8, 15. Alors, pour celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il croit avoir. Vous trouvez, dans la deuxième épître de Pierre, l'explication, il a mis en oubli la purification de ses péchés, il a un but de lui-même, il a un but de certaines idées chrétiennes, et zoom, il se croit déjà arrivé, et il est... une vedette. Bon, ben, il n'est rien du tout en fait. Voilà. Maintenant, continuons dans Luc. Chapitre 8. La mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne purent l'aborder à cause de la foule. Alors, je voudrais vous dire qu'il y a d'autres textes, dans les autres évangiles, Matthieu, Marc, etc., où réellement ils le prennent pour un fou, ils veulent le renfermer à la maison. Alors là, nous avons une image très claire de ce que pouvaient être les frères et même Marie. C'était des pécheurs. Si Jacques, le frère de Jésus, après devenu le responsable de la première église à Jérusalem, Hein, l'épître de Jacques, c'est un champion, Jacques. Il a fallu beaucoup de grâce, beaucoup de changement. Et si Marie est devenue une honorable chrétienne, digne d'être honorée, mais pas adorée, la différence, cette Marie a dû changer beaucoup aussi. Parce qu'elle voulait faire taire le Fils de Dieu. Donc elle était complètement humaine, elle était dans le péché. Contrairement à la doctrine de 1870, qui a été émise au Concile Vatican I par l'Église catholique. Et par le concile, les deux conciles d'Éphèse en 321 et 331 ou 41, sous contrainte de l'armée romaine, enfermés dans le temple de l'empereur, la maison de l'empereur, les évêques ont dû voter Marie, Mère de Dieu. Et on a pris toutes les prières, tous les titres que Artémis avait, on a repris ça à charge de Marie, la Mère de Jésus. Mais si vous regardez les conciles d'avant, avant 313, avant Constantin, les conciles de Nicée et de Chalcédoine, c'est pas Mère de Dieu. Marie n'est pas Mère de Dieu, elle est Mère de Jésus. Alors, si vous prenez Galates chapitre 4, vous verrez, vous pouvez aller voir que Jésus est né d'une femme née sous la loi, une femme juive. Et c'est une gunée. Le terme en grec, ça veut dire une femme qui a eu des relations sexuelles avec son mari. Gunée. Et donc, elle, après avoir engendré de manière virginale Jésus, ensuite, elle a eu des relations avec son mari, elle a eu des enfants. Et donc, Jésus a eu des frères et des sœurs. Les catholiques disent que ce sont des cousins, que ce sont des personnes. Je n'ai rien contre les catholiques. Je ne critique pas les hommes et les femmes catholiques. Je veux dire que la doctrine est fausse. Dans le bas des Bibles de Jérusalem, on dit toujours, oui, mais c'est au sens général, cousin, cousine, etc. Jésus n'avait pas vraiment de frères et de sœurs. Je veux bien en araméen, en hébreu, mais malheureusement, pour ceux qui ont écrit cette note, c'est fallacieux. Parce que c'est écrit en grec. Et un cousin, c'est ek, une cousine, ekadelphos. Ek, comme extraordinaire, exagéré. C'est donc frère à côté. Ekadelphos. Mais dans le texte de l'évangile, Pierre, Jacques et Jean, enfin, les frères, Jude, José, Simon, etc., il y a trois, quatre frères, ils sont cités dans Marc et dans Matthieu, deux fois. Ce sont des adelphos. En grec. Ce sont des vrais frères et sœurs. Bon, j'en reviens à ceci. Ces hommes et ces femmes, qui sont les frères, sans doute qui sont déjà adultes, et Marie est avec, ils veulent faire taire Jésus, si on voit les autres textes. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, il y a quelque chose, il y a un conflit, évidemment. Ou c'est la tradition juive qui prend le dessus, dans la famille de Jésus, ou c'est la manifestation plénière du Fils de Dieu qui prend le dessus, un des deux. Quelle est? C'est une bataille. D'où l'idée qu'un glaive transpercera le cœur pour Marie dans l'évangile de Luc, au début de l'évangile de Luc. Je pense que c'est Siméon ou Anne qui annonce cela à Marie. Alors, lisons. Luc 8, 19. La mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne purent l'aborder à cause de la foule. On lui dit, ta mère et tes frères sont dehors et désirent te voir. Mais il répondit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Chers amis, il faut savoir que Jésus est la parole de Dieu, incarnée. Lisez les 18 premiers versets de l'évangile de Jean. Et dans l'évangile de Jean aussi, au chapitre 8, il dit « Je suis ce que je vous dis ». Donc ici, clairement, ceux qui aiment la parole de Dieu, qui est manifestée en Jésus, sont les frères et les sœurs de Jésus. C'est quelque chose de très difficile pour Marie, pour les frangins et les frangines, n'est-ce pas, d'encaisser ça. C'est pourtant avec des paroles comme ça qu'ils ont changé. Ils ont été bouleversés et qu'à la Pentecôte, ils ont tout admis, tout compris. Pourquoi pas nous? Pourquoi nous ne serions-nous pas les frères et les sœurs de Jésus à la seule condition, c'est d'aimer sa parole du fond de notre cœur? C'est pas simplement de dire, un jour j'ai prié avec un pasteur ou avec une chrétienne, un chrétien, j'ai donné mon cœur à Jésus. Si j'ai donné mon cœur à la parole de Jésus, alors je veux bien croire qu'on a donné son cœur à Jésus. Jean chapitre 5. Il faut tout de même être un petit peu souple et en même temps précis. Ne pas devenir stupide au niveau de la parole. Donc Jean chapitre 5, verset 21 et suivant. « Comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. » Pas après la mort, hein, il peut la donner tout de suite. « Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. » Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Alors voici le verset extrêmement crucial, qui est comme une lame de rasoir. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Celui qui écoute ma parole. Donc ça revient, tout à l'heure, vous avez vu dans Luc chapitre 8, qui sont mes frères et mes sœurs. Ceux qui écoutent ma parole et la mettent en pratique, évidemment. De nouveau, on retombe dans le thème de du bon terrain et de la bonne semence, dans chapitre 8. Et je lis le verset 25, dans Jean 5, verset 25. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, donc elle est actuelle, où elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Les morts, j'étais dans la semaine mardi avec des frères et des sœurs de l'église sur une grande place d'une ville, sur une terrasse à l'ombre, pour boire un verre. Parce que nous avons reçu vraiment ce jour-là tous les actes notariés, nous avons signé les actes notariés pour la maison de prière. C'est clôturé, c'est fait. Et donc nous étions là ensemble avec notre facilitateur de projet, très fraternellement, pendant plus de 2 heures. Quand je regarde les gens qui passent, qu'ils soient vieux, qu'ils soient jeunes, ce sont, à part ceux qui ont accepté Jésus-Christ en eux, ce sont tous des morts qui marchent. Ce sont tous des gens séparés de Dieu. Ce sont tous des gens qui ne verront jamais Dieu, qui ne connaîtront jamais. Sauf, si dans leur cœur, ils acceptent la parole de Dieu. Alors, vous me direz, où ils l'entendront. Vous êtes des porteurs de lumière, vous êtes des porteurs de parole. Je suis porteur de parole. Ne commençons pas à démissionner, parce qu'un chrétien démissionnaire n'est pas missionnaire. Et un chrétien qui ne porte pas la parole aux morts, c'est qu'il se plaît à les voir aller en enfer. Le chrétien doit avoir le souci du salut des âmes. Je vous le dis, le texte de Luc, je l'ai choisi pour cela. Donc, les frères et les sœurs de Jésus, ceux qui vivent, ceux qui ont reçu la vie éternelle, qui ont reçu Christ, et donc, Luc lui-même est devenu un frère de Jésus. Et peut-être tout son entourage, des autres médecins, parce qu'il était médecin, d'autres collaborateurs dans la médecine. Donc, voyons bien la dynamique de la parole de Dieu. Nous allons aller plus loin. Quand nous recevons la parole de Dieu en nous et que nous voulons la vivre, nous cherchons absolument de manière humble et sincère à la vivre, il se passe plusieurs choses comme épreuves. Il y a des épreuves. Et ces épreuves ne sont pas négatives. Elles sont terribles. elles peuvent avoir une grande influence émotionnelle sur nous, mais elles nous rapprochent du vrai niveau de la foi, qui n'est pas au niveau du sentiment. La foi est la confiance totale en Christ. C'est le récit, le premier récit, c'est celui de la tempête sur le lac, sur la mer de Tibériade. 104 km carrés. Hein. Je l'ai vu, c'est grand. Alors, Luc 8, 22. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, passons de l'autre côté du lac, et ils partirent. C'est pas un petit lac, hein, c'est pas un mouchoir de poche. Hein. Dans le sens de la largeur, on voit au loin la rive, hein, sans pouvoir la définir vraiment. Mais dans le sens de la longueur, impossible. Hein. Donc c'est grand. Il leur dit, passons de l'autre côté du lac, et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac, la barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, « Maître, maître, nous périssons. » S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots, qui s'apaisèrent et le calme revint. Puis il leur dit, « Où est votre foi ?» Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent ?» Ceci n'est pas une fable, ceci est l'accomplissement du psaume 107. Jésus réalise, manifeste la gloire de la prophétie du psaume 107. Je vous invite à lire le psaume 107 et vous verrez, il y a d'autres psaumes, il y a d'autres passages dans la Bible, il n'y a pas que celui-là, ça serait malheureux, il y en a plusieurs. Toujours, Jésus a accompli des paroles sublimes données par son Père à travers les prophètes. Jésus est la parole accomplie. Jésus est la parole incarnée. C'est ça qu'il faut qu'il apprenne à ses disciples. Et dans la tempête, c'est ça qu'il apprend. Psaume 107, je ne vais pas tout lire. Verset 23. Ceux qui étaient descendus sur la mer dans des navires et qui travaillaient sur les grandes eaux, donc des professionnels, comme les disciples de Jésus, ceux-là virent les œuvres de l'Éternel et ses merveilles au milieu de l'abîme. Les œuvres de l'Éternel. Il dit, il fit souffler la tempête qui souleva les flots de la mer. Il montait vers les cieux, il descendait dans l'abîme, vous imaginez. Il montait vers les cieux, il descendait dans l'abîme, leur âme était éperdue en face du danger. Des professionnels. Saisis de vertige, ils chancelaient comme un homme ivre et toute leur habileté était anéantie. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et les délivra de leurs angoisses. Il arrêta la tempête et ramena le calme et les ondes se turent. Ils se réjouirent de ce qu'elle s'était apaisée et l'Éternel les conduisit au port désiré. Lisez tout ce psaume. Il est formidable. Lisez le psaume 65, verset 8. Je vous le conseille. Lisez le psaume 93, verset 4. Lisez Ésaïe 51, verset 15. Voilà. Trois autres textes qui vous montreront qu'on n'est pas dans l'amateurisme avec Jésus. Jésus accomplit une manifestation de l'Éternel, parce qu'il est l'Éternel. Et il engendre la foi. Et pour engendrer la foi, chers amis, nous, comme tout le monde, comme tous les disciples du premier siècle et d'aujourd'hui, dans certains pays où ils commencent à devenir chrétiens, eh bien, il y a des chocs brutaux, il y a des épreuves considérables. Et c'est là qu'on se rend compte que Jésus ne dort pas. C'est là qu'on se rend compte que Jésus intervient. La première grande expérience, c'est la parole, je vous l'ai dit. La deuxième grande expérience, c'est la puissance de Christ. La puissance de Christ. Nous avons besoin de développer notre confiance en la puissance de Christ. Sinon, si nous croyons dans la parole et nous refusons et nous rejetons, nous nous arrangeons pour ne jamais avoir des preuves. Nous ne découvrirons jamais la puissance de Christ. Donc l'autorité de sa parole ne sera pas en nous. Vous voyez le côté sublime du chapitre 8, la richesse de la parole qui nous fait enfants de Dieu, il nous donne la vie éternelle. Mais la parole, c'est l'accomplissement des prophéties. Et la parole, c'est la manifestation de la puissance divine de Christ. est le support de la parole qui est en nous. C'est le rocher de nos âmes. Alors, passons, continuons. Nous avons peut-être encore un petit quart d'heure. Continuons. Nous sommes dans Luc chapitre 8, verset 26. Ils abordèrent dans le pays des Géraséniens qui est vis-à-vis de la Galilée. Donc Gadara, si vous regardez une carte, vous voyez le Jourdain, il y a la mer de Tibériade, il y a la mer Morte. Légèrement en dessous de la mer Morte, à droite, il y a une région qu'on appelle Gadara. C'est une région où Josué et tous les Juifs n'ont jamais arrivé à implanter la Torah, la vie, la révélation divine. Il y avait au nord Galate, il y avait au sud d'autres tribus, et dans toute la partie gauche de Jourdain, il y avait d'autres tribus. Mais il y a une région de dur, mais vraiment coriace, tenace, qui n'a jamais rien pris. La mayonnaise n'a pas pris, comme on dit. C'est peut-être dommage de dire des images comme ça, mais comprenez bien que ça peut arriver aussi dans nos pays. Il y a des régions où on se dit, mais qu'est-ce que je fiche ici? On n'arrivera jamais à rien faire pour Jésus. Nous sommes, notre famille, dans une région comme ça. Nous sommes dans une région comme ça. Et il y en a bien d'autres, des chrétiens partout, qui sont dans des régions comme ça, qui ont des gadaréniens autour d'eux. Alors, ce qui se passe, c'est que dans ces villes où on a refusé la parole de Dieu, et il y a une manifestation démoniaque extrêmement importante. Là où il n'y a pas le Seigneur Jésus, il y a le démon. Il n'y a rien. Entre les deux, le vide n'existe pas au niveau spirituel. La neutralité spirituelle n'existe pas. Ça, c'est des théories idiotes. Il y a soit la présence du Seigneur Jésus, soit la présence de l'ennemi de Dieu. Alors, lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements et avait sa demeure, non dans une maison, mais dans les sépulcres. Vous avez vu? Voilà un homme possédé. Mais si vous regardez bien au début du chapitre 8, au verset 2, il y a des femmes qui sont citées, versets 2 et 3, des femmes qui sont citées, et une qui est une chrétienne, une disciple de Jésus, Marie de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Et je peux vous garantir que 7 démons, ce n'est pas une petite affaire. C'est horrible quand quelqu'un est possédé de 7 démons. Alors, nous voilà toute cette équipe-là, qui est confronté à une région qui a coriace, qui n'a jamais accepté rien du tout de la parole de Dieu, et il rencontre un homme possédé qui brise les chaînes. Il brise les chaînes quand on veut l'attacher, et qui vit dans des sépulcres, dans des tombeaux. Est-ce que vous croyez que ça existe encore aujourd'hui? Tout ce que vous voyez dans la parole de Dieu existe. En tout cas, moi, je suis tombé dessus, sur des gens comme ça. Ça fait drôle. Là, ça fait drôle, hein, je vous le dis. Ce qu'il faut faire, c'est de prier beaucoup. Prier beaucoup, parce que c'est pas tout à fait normal, ça. Ça, c'est quelqu'un qui est copain avec l'autre. Hein. Alors, cet homme dit quelque chose, mais c'est les démons qui sont en lui. « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. » Satan est complètement toujours dérangé par Jésus. Satan est tourmenté par la présence de Jésus. Donc, si vous êtes chrétien, si vous avez accepté Christ en vous, si vous connaissez la puissance de Christ, ou que vous y croyez en tout cas, alors vous la connaîtrez tôt ou tard. Il y aura des événements pour la connaître. Eh bien, vous savez bien que Satan en face de vous est tourmenté. Et quand vous rencontrez des gens, il y a des personnes qui sont avec l'ennemi, elles sont tourmentées rien que par votre regard, votre présence, même que vous seriez sourd-muet, ou par votre quelque chose, même que vous avez été très bien, affable, favorable. Et parfois, ça peut aller très loin. dans l'animosité contre vous. Il faut faire attention. Parce que les démons sont tourmentés par la présence d'un enfant de Dieu. Alors Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme dont il s'était emparé depuis longtemps. Et vous connaissez tout le reste du récit, vous le lirez. Hein, lisez-le attentivement ce soir, relisez-le demain. Cet homme va être libéré, mais les démons, eux, ne sont pas contents de quitter cet homme dans lequel il régnait, il faisait du mal, il faisait un cirque, il cassait tout, c'était Rambo. Quand vous voyez des films où Rambo casse tout, ou Tarzan, par exemple, un grand champion Tarzan, et puis après, vous connaissez, aux États-Unis, ils ont des champions comme ça, Spider-Man, etc. Ce sont tous des gens avec une puissance phénoménale. Et Terminator. Ce sont toutes des images d'une hyperpuissance qui n'est pas humaine. Cette hyperpuissance qui n'est pas humaine, c'est ça qui a impressionné les Juifs qui étaient partis avec Moïse dans le désert. Et quand Moïse envoie des hommes de chaque tribu en Canaan pour voir ce qui s'y passe, ils ont vu les Anakim, les géants. Et qu'est-ce qui se passe? Il n'y en a que deux qui disent « on peut y aller, on a le Seigneur avec nous, on ira ». Josué et Caleb. Tous les autres disent « non, pas du tout. Moïse, tu nous as mis dans un traquenard, on aurait mieux fait de rentrer en Égypte, de ne pas partir. Tu veux faire mourir nos enfants et tout le monde ». Vous voyez que dans le peuple de Dieu aujourd'hui, le peuple chrétien, il peut y avoir des gens qui ont une très grande confiance dans le Seigneur Jésus et qui acceptent le combat spirituel, qui s'offrent à travers la vraie vie chrétienne. Et puis il y a les chrétiens qui n'acceptent pas la vie, le combat spirituel. Ils veulent une vie chrétienne dans des pantoufles et un divan, des strapontins au ciel. Et s'il vous plaît, c'est inconciliable dans la pensée de Dieu. Ceux-là périrent dans le désert. Eh bien, aujourd'hui, ceux-là qui vivent comme ça, qui pensent comme ça, resteront dans la tribulation probablement. Pour être éprouvés et peut-être se convertir, réellement cette fois-ci. Donc, nous allons voir que ces démons supplient, et alors ils sont jetés dans un troupeau de cochons, et les cochons périssent, et la foule arrive, et la foule n'est pas contente que l'homme soit guéri, on s'en fiche. C'est le rapport économique qui compte. Il fallait garder les 2000 cochons. Il fallait garder tout ce troupeau-là. À l'heure d'aujourd'hui, lorsque nous perdons de l'argent à la bourse, nous perdons de l'argent au point de vue économique, c'est l'obsession suprême. Et c'est l'intérêt pour Dieu, non, pour les dirigeants de ce monde et pour beaucoup de citoyens, n'est pas vers Dieu. Il est vers les cochons. Attention aux chrétiens. Attention aux chrétiens. Qu'ils sachent bien de quel côté ils sont. Je finis ce récit pour le possédé qui est guéri. Ce possédé, au verset 38. Excusez-moi, je commence à avoir des problèmes d'audition, des problèmes de vue, mais que Dieu me garde longtemps encore pour pouvoir lire. L'homme de qui étaient sortis les démons lui demandait la permission de rester avec lui. Voilà un homme qui est guéri, un homme qui est délivré et qui a du respect pour Jésus, la considération, qui a vu qui était Jésus. Et il demande à rester avec lui. Mais Jésus le renvoya en disant, retourne dans ta maison, raconte tout ce que Dieu t'a fait. Il s'en alla et publia par toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. Que voyaient tous les disciples et les saintes femmes qu'on voit au début, qui sont citées au début de Luc 8. Ils voient que Jésus laisse un homme tout seul dans une fichue région complètement bouchée pour l'évangile. Est-ce que Jésus est sadique? Eh bien, je vais vous dire ceci. Il arrive que des chrétiens soient tout seuls dans une région, souffrent et tiennent le coup. Pensez à Élie, à Acap et Jézabel. Et puis à un moment donné, ils craquent Il déprime, Dieu vient à son secours, il lui donne à manger, il l'amène jusque dans la montagne, et puis Dieu lui révèle qu'il y en a 7000 autres comme lui, qui n'ont pas cédé, qui n'ont pas plié les genoux. Nous ne sommes jamais seuls, chers amis. Même dans des régions où un chrétien est tout seul, il n'est jamais seul. Dieu a mis autre part. Le problème, c'est peut-être la communication, peut-être se déplacer, chercher. Et il y a un psaume qui est très intéressant, et qu'il faut bien s'en rendre compte. Parfois, nous sommes dans l'isolement, non pas parce que Dieu l'a voulu, ça arrive. Mais il peut arriver aussi que nous sommes un peu maladroits. Parce que nous ne cherchons pas vraiment à trouver les frères et les sœurs que Dieu a mis sur la terre. S'il n'y a pas d'église, s'il n'y a pas de communauté, mais qu'il y a quelqu'un, quelque part, là, pas loin, qui a aussi dans son cœur l'amour de Christ et qui a la vie éternelle, il faut chercher les hommes pieux, les femmes pieuses de votre région. Il faut les chercher. Et comment peut-on les trouver? En priant. En priant. Parce que les autres, à mon avis, ne vous le diront pas. En priant, en se mettant à genoux, on découvre des frères et des sœurs d'une manière étonnante, qui sont d'une grande valeur, qui ont été éprouvés dans la difficulté. Et je ne retrouve pas, malheureusement, je n'avais pas préparé cela, je ne retrouve pas le psaume durant ma prédication présente. Et c'était... Que le Seigneur vous bénisse. Je le retrouverai, je le dirai une fois prochaine. Il y a de l'amour à chercher les bien-aimés de Dieu à travers votre région. Les bien-aimés, c'est ceux qui sont fidèles et qui, dans l'adversité, ont persévéré. Et donc, c'est ça la parabole. La parabole de Jésus, quand il dit la bonne terre, ceux qui gardent la parole, un cœur honnête et persévérant. Vous la trouvez, cet homme-là va rester dans la région de Gadara et il va témoigner. Nous ne sommes pas toujours dans le velours pour être chrétiens. Voilà. Et ça fait partie de la formation que Jésus donne à ses disciples. Il y a eu la tempête, il y a le cas de l'affrontement à Satan. La deuxième chose, il y a le cas de l'isolement, du confinement spirituel, je vais dire. Confinement spirituel, c'est pas à cause du coronavirus, mais on est confiné parce que tous les autres, ils n'ont pas la même vie spirituelle. Et maintenant, on va aller dans le texte. Je vais essayer de terminer rapidement. Verset 40. Luc 8, 40. À son retour, Jésus fut reçu par la foule et tous attendaient, bien sûr. La foule aime bien toujours ce qui l'émeut. Il faut voir si c'est une attente plus profonde. Ça, c'est un autre problème. Et voici, il vint un homme nommé Jaïrus qui était chef de la synagogue et se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison. Parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Qu'est-ce qui va se passer? Il va y aller, évidemment. Il va y aller et tout le monde qui est là tout près de la fille va... Entre-temps, Jésus va être arrêté par une dame qui va guérir et il a traîné, entre guillemets, un petit peu comme le cas de Lazare qui était mort. Il va falloir le ressusciter. Eh bien, Jésus voit des gens arriver, il dit, c'est trop tard, il n'a pas besoin de venir, elle est déjà morte. Mais Jésus, lui, ne dit pas cela. Il dit, ne crains pas, crois seulement, elle sera sauvée. Au verset 50. Voilà un homme religieux, un homme qui a un sens de Dieu, évidemment, et du cœur pour son enfant, pour sa fille, et qui cherche auprès de Dieu le messager de la grâce, le guérisseur divin, qui cherche la main de Dieu à travers Jésus. Il a déjà vu Jésus guérir le paralytique, il a déjà vu d'autres personnes guéries par le Seigneur Jésus. Et voilà qu'il est dans le cas, sa fille est en train de mourir. Donc il a foi d'une certaine manière. Ne crains pas, crois seulement, elle sera sauvée. Et bien sûr, elle est guérie. Ce qui se passe, c'est qu'il y a un autre texte parallèle. Vous pouvez aller voir dans Matthieu et Marc. Vous verrez que cet homme dit, « Viens au secours de mon incrédulité. » Il sait qu'il a une petite foi. Donc, nous avons dans la vie chrétienne, et ça c'est quelque chose que Jésus apprend à ses disciples, il y a eu la tempête, il y a eu l'homme possédé, et puis il y a le serviteur tout seul, dans la difficulté, et puis maintenant il y a l'homme religieux, sensible à Dieu, qui connaît, mais qui craque, il a une épreuve. Que faisons-nous ? Croyons-nous à l'autorité de Jésus ? À la divine puissance de Christ ? Pour venir au secours de cette personne ? Chers amis, moi j'y crois. La deuxième chose, je ne prétends pas être un faiseur de miracles. Je sais que Jésus a guéri des personnes quand nous lui avons demandé. Et notre Église en est témoin. Ce n'est pas une opinion personnelle. Donc, il y a quelque part dans ce texte un apprentissage de l'autorité et de la puissance de Jésus. Pas seulement sur la tempête, pas seulement sur Satan, pas seulement sur l'hostilité communautaire sociologique. L'autorité de Jésus, ce bonhomme va tenir le coup tout seul, parce que Jésus va le garder spirituellement. Et maintenant, il y a l'autorité de la puissance de Jésus sur les corps, sur la situation. Alors, il y a une autre situation dans ce texte. En cours de route pour aller chez Jaïrus, il rencontre une femme qui avait dépensé tout son argent, verset 43, qui avait dépensé tous ses biens pour être guérie. Elle perdait son sang.
7h10.
Eh bien, je suis tombé un jour sur une femme qui perdait son sang pendant 24 jours par mois. Mes amis, 24 jours. On va attendre un petit peu. Tentative de reconnexion. Oui, je vais bientôt terminer. Cette personne a été guérie. Elle avait un fibrome de 32 kilos. Elle était dans une chambre toute seule. Et ça puait la mort dans la chambre. On lui a mis des baguettes de radium dans le ventre. C'est la seule fois que j'ai vu ça de ma vie. Et elle est guérie, elle est vivante. Elle n'est pas convertie, mais elle est guérie. Sa conversion, ça dépend de la grâce et de son accueil à la grâce. Je ne suis pas là pour convertir les gens malgré eux, mais en tout cas, en ayant beaucoup prié pour cette personne, j'ai vu ce miracle. Et c'est des miracles que Jésus a montré à ses disciples. C'est des miracles qui ne sont pas faisables parce qu'on se dit « je crois en Jésus, je vais faire des miracles ». Il est complètement faux. Il faut être soumis à Christ entièrement. Et on ne prie pas quand on veut et comme on veut pour une guérison. On ne prie pas pour faire un challenge, des exploits pour une star de la guérison, être un thaumaturge. Ça n'existe pas. Sur 20 ou 30 personnes qui sont dans cette situation, peut-être que le Seigneur peut demander à un serviteur de Dieu de prier pour une de ces personnes-là, ou deux. Pourquoi ? Parce que c'est plus tard, quand Jésus reviendra, que tout, il n'y aura plus ni deuil, ni chagrin, ni mort. C'est plus tard, quand Jésus établira son royaume. Aujourd'hui, on ne peut pas prétendre avoir tous les signes du royaume. On en a quelques signes, quelques prémices, des avertissements, des preuves que c'est possible. Et moi, je pense réellement que Dieu parfois donne des signes aujourd'hui. Ce n'est pas pour cela que quelqu'un qui a, dans son ministère, eu cette grâce, peut s'en glorifier. Et jamais, jamais, je ne pourrai en retirer une gloire. Je sais que le Jésus m'humilie tous les jours et m'a suffisamment humilié par des tas d'épreuves pour que je ne relève pas la tête. Seul revient la gloire à Jésus. Mais Jésus aujourd'hui est le même qu'hier, aujourd'hui et demain, dans Hébreux. Alors, pour la femme qui avait cette hémorragie horrible et qui était ruinée, quand elle touche Jésus, dans la foule qui est contre Jésus, Jésus dit « Qui m'a touché ?» La foule t'entoure et te presse et tu dis « Qui m'a touché ?» C'est Pierre qui dit ça et tous les disciples. Mais c'est pas possible, Jésus. Tu ne peux pas dire que quelqu'un t'a touché, tout le monde t'a touché. C'est pas comme ça qu'il faut le voir. Ce n'est pas comme ça qu'il faut le voir. C'est simplement que Jésus, dans la foule, savait qui avait la foi en lui. Regardez au verset 48. « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Il y avait quelqu'un dans la foule, parmi tous ceux qui touchaient, une personne qui avait la foi. Or, Jésus a l'intelligence divine, il sait qui a la foi et la confiance en lui. Et quand il dit « qui m'a touché », ça veut dire « qui a la foi en moi, parmi tous ceux qui m'ont touché ?» Et évidemment, mes frères et mes sœurs, quand nous sommes chrétiens, et là je reprends le cas de tous les disciples et des femmes, ils travaillent pour le Seigneur, ils vivent pour le Seigneur après, quand Jésus est remonté au ciel. Ils doivent apprendre à discerner qui a la foi en Jésus, qui est travaillé, qui est appelé. Quelqu'un est appelé aujourd'hui, et un autre n'est pas appelé aujourd'hui. Dans 5 ans ou dans 20 ans, quelqu'un qui avait refusé aujourd'hui, qui n'était pas appelé, sera appelé. Le serviteur doit pouvoir discerner, le serviteur de Dieu doit pouvoir, et la servante de Dieu doit pouvoir discerner celui dans qui Dieu crée un appel puissant. Et je prends, je termine avec Romains 8. Je suis long, mais je m'emballe, je m'excuse. Romains 8. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi Romains 8, verset 29. Il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Quand quelqu'un est appelé, est-ce que c'est moi, chrétien, qui peux dire « c'est aujourd'hui que Jésus t'appelle » Jamais. Moi, je ne dirai jamais ça. Jamais. Je vais présenter Jésus. Hein. Ce n'est pas aujourd'hui forcément que Dieu l'appelle. Je ne vais pas jouer au gourou. Ce qu'il y a, c'est que peut-être 5 ans, 10 ans, 15 ans après, ou 2 heures après, il a appelé. Ça, c'est l'œuvre divine d'appeler. Moi, je suis Christophoros. Et vous, vous êtes Christophoros. Vous apportez, vous êtes porteur de la lumière de Christ. Et vous êtes serviteur. Nous ne sommes que des serviteurs. Quand, à la noce de Cana, les serviteurs ont porté les cruches d'eau, ils pensaient que c'était toujours de l'eau. Et quand celui qui a bu a goûté, il a vu que c'était du vin. Donc, nous portons quelque chose en nous et nous ne pouvons pas définir quel sera l'effet chez l'autre. Nous, pourquoi ? Pour qu'on ne s'enorgueillisse pas, chers amis. Tout le chapitre de Luc, chapitre 8, est un apprentissage de l'humilité et du bon service. Et je vous souhaite, mes amis, de mener une vie passionnante et humble et profonde avec Jésus, pour Jésus, et d'apporter aux autres ce que Jésus veut apporter. Mais laissez faire Jésus. Laissez faire. Il réussira très bien ce qu'il veut faire. Gloire à Dieu, chers amis, et à bientôt.